La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme celle de Proust ou de Céline, la prose de Jean Genet a marqué la littérature française du XXe siècle. Il a été ce poète de la violence, passant sa vie à observer ces fleurs qui poussent sur le mal et la trahison. Et il a inventé une langue pour raconter tout cela. L'idée de la trahison, d'ailleurs, n'avait pas pour lui le sens que nous lui donnons communément. Trahi lui-même par la vie, pourrait-on dire, il s'est employé à esthétiser cette notion, à la rendre elle aussi poétique, au prix parfois de ce que certains ont lu comme des dérapages. Et parmi ceux qui se sont interrogés sur la violence de ces textes, on trouve Yvan Jablonka, auteur en 2004 de l'essai « Les vérités inavouables » de Jean Genet. Il viendra jeudi nous exposer son point de vue sur l'auteur de « Notre-Dame des fleurs ». La veille mercredi, Agnès Van Nouvong sera dans ce studio pour nous parler de Genet sous l'angle des études de genre. Et en seconde partie, c'est du rapport de l'écrivain avec les arts plastiques dont il sera question toujours avec elle. Enfin demain, nous parlerons du théâtre de Genet et de son rapport à la Méditerranée. Ce sera avec Emmanuel Lambert. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Jean Genet, nous sommes avec Albert Dichy, directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, où il est également responsable du Fonds Genet, dont il est l'un des grands spécialistes. On lui doit notamment Jean Genet, matricule 192-102 aux éditions Gallimard en 2010. Et il a aussi collaboré à la biographie de l'écrivain rédigée par Edmund White, toujours aux éditions Gallimard, mais en 1993, en lui fournissant une chronologie très détaillée. Edmund White, que je vous propose d'écouter tout de suite en introduction à cette émission. And I think that's worth mentioning.
Il a toujours jeté la poussière dans les yeux de, surtout des gens qui voulaient être biographes, et il détestait l'idée de la biographie. Et ça, je pense, parce que dans ses romans, il parle avec l'autorité de l'aveu. C'est les confessions. Mais en effet, il a beaucoup changé les choses dans sa vie. La plupart des écrivains qui changent les faits de leur vie, c'est pour se mettre en valeur. Mais lui, non, c'est presque le contraire. Par exemple, quand il était à Maitrey, il s'est évadé. Et c'était la chose la plus héroïque qu'il a fait jusqu'à ce point dans sa vie. Mais il donne toute cette histoire à un garçon qu'il admire, à un autre garçon. Il dit, quand je suis arrivé à Maitrey, il y avait un autre garçon qui s'appelait Rigaud, qui s'est évadé, qui est allé jusqu'à un certain... Il nomme la ville et tout. Et tous les faits sont les faits de sa propre évasion. So perfect. Jean Genet would be
proud to say we were lovers. Bonjour Albert Dichy.
Bonjour.
Alors ce que vient de nous dire en archive Edmund White, qu'est-ce que ça montre de cette personnalité un peu insaisissable qu'était Jean Genet selon vous ?
Oh, c'est très intéressant ce qu'il a dit parce qu'il pointe un des points peut-être les plus névralgiques dans son œuvre qui est... Au fond, le fait, on a beaucoup parlé de l'exaltation du mal dans l'œuvre de Jean Genet, mais cette exaltation du mal, elle est aussi chez lui toujours une façon de prendre le mal sur lui, ce qui serait la condition d'ailleurs pour qu'il puisse ensuite être partagé et devenir bien commun. Mais il faut qu'il prenne le mal sur lui et surtout que le mal social, le mal général ne soit pas fixé sur quelques personnes particulières.
Alors il prend le mal sur lui, même davantage que ce qui lui appartient. Edmund White disait un petit peu plus loin dans cette archive qu'il avait laissé entendre à beaucoup de gens qu'il avait été un assassin, ce qui est totalement faux.
Je crois que c'est un peu difficile de le savoir aujourd'hui, mais je crois que oui. Je veux dire, on n'a trouvé aucune trace vraiment de
Vous avez peut-être un doute quand même sur ce
Disons, point. Je pense qu'il a rêvé d'être un assassin, parce que l'assassin est celui qui franchit la frontière, qui se place hors de la société. Et il a toujours eu une terrible peur d'être pris dans la société. Donc l'assassin est celui qui a une sorte de garantie, qui ne peut pas être réintégré facilement.
Il n'a mais pas pu non. Franchir le pas selon vous.
Il a été un petit voleur, comme disait Cocteau. Il aurait voulu être un grand voleur, mais si on regarde bien son œuvre, au fond, son œuvre, c'est plus la défense des... Comment dire, des petits voleurs, des petits.
Il y a
de grands assassins aussi qu'il a chanté, mais il chante les grands assassins. Peut-être que s'il commet un crime, il est plus dans le chant que dans l'acte. Et d'ailleurs, il a très vite compris qu'il y avait quelque chose de pire que de commettre un acte, que de commettre le mal, c'est de chanter le mal.
Alors Edmund White, qu'on entendait en archive, c'est donc basé sur cette chronologie que vous lui avez fournie, une chronologie très précise, et puis il en a fait un récit qu'il a voulu un petit peu cinématographique. Et finalement, cette idée de l'écriture cinématographique, elle est assez appropriée, parce que l'écriture de Genet aussi, elle est un petit peu cinématographique, Albert Dichy.
Je pense qu'au fond, tout cela est lié à la question du rêve. Genet a toujours dit que durant toutes ces années qu'il a passé en prison, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de rêver, que la prison est une formidable fabrique de rêves, que tous ceux qui sont en prison passent leur temps à cela. Et ce qu'il a réussi quand même, c'est à passer du rêve à l'écriture, ce qui est vraiment le grand passage. Mais en passant à l'écriture, il n'a pas transformé le rêve. Il a essayé de conserver. Et donc, il a créé une œuvre qui est effectivement, qui a quelque chose en commun avec l'écriture cinématographique, qui procède par montage, par court-circuit, par mise en relation de choses qui ne sont pas linéaire, voilà. Il a cassé quelque chose de la linéarité du roman traditionnel ou de l'écriture traditionnelle.
Finalement, et toujours pour citer Edmund White, il a eu une vie de moine, parce que les moines passent leur vie en cellule. Genet a été aussi qualifié de saint par Sartre. Ça vous semble juste ces métaphores religieuses pour parler de Genet?
Genet évoque cette question lui-même avant même Sartre, puisque Sartre s'en sert pour son livre, mais dans le Journal du voleur, il y a toute une réflexion sur le saint qui est hors de la société et donc qui n'est pas dans l'Église. Le saint, il y a un grand clivage entre le religieux, l'homme d'Église et le saint. Le saint est hors de l'Église et dans ce sens, il est beaucoup plus proche de grandes figures comme les criminels, les meurtriers, les gens en marge, voilà.
Oui. À tel point que Lydie Dattas, qui a vécu un moment avec Jean Genet, disait qu'il vivait toujours un petit peu comme dans une cellule, puisque en 1957, il avait acheté un appartement, il y avait deux pièces, et il avait cette phrase qui était de dire « Quand je me trouve dans une pièce, j'ai l'impression que l'autre se sent seul et il faut que je me précipite à son secours. » C'est tout de même assez joli et en même temps symptomatique.
C'est la question de l'abandon qui est centrale chez Genet. C'est-à-dire, la chambre seule est abandonnée et donc elle se retrouve comme lui. Donc il doit tout de suite y aller.
Pour la sauver.
Pour la sauver. Il y a quelque chose dans le mouvement de son œuvre, il y a quelque chose qui est salvateur.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs.
La compagnie des auteurs sur France Culture et ce célèbre extrait du journal du voleur lu par l'auteur lui-même, Albert Dichy. Alors, Genet avait 7 mois seulement quand sa mère l'a confié, c'était le 28 juillet 1911, au bureau d'abandon de l'hospice des enfants assistés qui se trouvait à l'époque rue d'Enfer Rochereau. Sa mère, elle s'appelait Camille Genet, et elle-même a disparu juste après avoir abandonné son enfant. Ils ne se sont plus jamais revus, et elle est morte 8 années plus tard de la grippe espagnole. C'est évidemment une part de la biographie de Genet qui est extrêmement connue aussi, mais tout remonte évidemment à ce traumatisme premier.
Oui, il y a cette figure qui est un peu comme une case vide dans l'œuvre de Genet et dans la biographie d'ailleurs, puisque nous n'avons pas une seule photo, par exemple, une seule reproduction, on ne sait pas à quoi elle ressemblait.
Il y a des lettres que vous avez retrouvées après la mort de Genet, et ça c'est assez déchirant parce qu'il n'aura jamais pu lire les lettres envoyées par sa mère à l'assistante publique dans lesquelles elle parle de ses petits garçons, car il y en avait en réalité deux, et ça Genet ne le savait pas non plus.
Non, au fond, c'est qu'il y a de terrible aujourd'hui quand on travaille, par exemple, comme je l'ai fait sur l'œuvre de Genet, sur sa vie, c'est que on en apprend beaucoup plus que ce que lui-même savait sur des choses, des éléments aussi cruciaux. Enfin, le rapport à la mère, on sait aujourd'hui que sa mère, effectivement, n'a jamais voulu vraiment rompre le lien, qu'elle n'a pas pu, qu'elle ne pouvait pas payer la nourrice à qui elle l'avait confié, et donc elle ne pouvait pas reprendre son fils, mais elle a continué à demander de ses nouvelles à l'assistance publique jusqu'à ce qu'elle meure, effectivement, à l'âge de 28 ans. C'est une histoire assez déchirante au départ de la vie de Genet. Et cette mère, au fond, dont il dit dans le journal du voleur, justement, qu'elle était à la fois la mère la plus chérie, puisqu'il n'a pas arrêté de rêver à elle jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et en même temps, la plus haïe, parce qu'elle l'avait abandonnée. Donc on a ces éléments.
Dans les lettres, d'ailleurs, elle dit « J'espère que mon fils ne m'en voudra pas de les avoir laissés. » Alors Jean Genet, il a grandi, du coup, dans une famille d'accueil. Il a été placé à Aligny, en Morvan, dans le département de la Nièvre, chez Charles et Eugénie Régnier, menuisier et tenant un bureau de tabac aussi, qui se sont donc engagés à l'élever jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à l'école du village, il a son premier succès littéraire. Il paraît que c'était une petite rédaction que son instituteur avait lue à haute voix. Et l'ensemble des camarades de sa classe s'étaient moqués, du coup, de cette rédaction. Là encore, on a une projection dans le monde pour un garçon sensible qui est difficile.
Alors cette histoire est assez intéressante, d'abord parce que la rédaction a un thème. C'est le maître avait demandé aux élèves de décrire leur maison. Et au fond, Genet avait écrit ce texte qu'on ne retrouvera jamais, même en archive, de cette rédaction sur sa maison. Et les autres enfants se sont moqués de lui parce qu'en fait, il était un enfant de l'assistance publique et qui n'avait pas de maison. Et ce thème de la maison revient dans toute la vie de Genet, puisque, d'une certaine façon, on pourrait presque définir Genet comme l'homme qui n'a jamais voulu avoir de maison. Sauf peut-être la maison de correction ou la maison d'arrêt. Et peut-être aussi la maison d'édition. Mais sinon, il n'a jamais voulu, ou à très rares, à de très rares moments dans sa vie, habité quelque part. Et au bout de sa vie, au fond, ce qu'il, la seule maison qu'il reconnaît comme la sienne, c'est une chambre où il est reçu par une vieille palestinienne et il passe une nuit dans cette chambre. Et les derniers mots qu'il écrit dans Un captif amoureux, c'est l'interrogation sur le fait que cette nuit, dans une maison 14 ans plus tôt, est-ce qu'elle avait été rêvée ou est-ce qu'elle avait été réelle? Mmh. Et donc, cette question de la maison hante toute l'œuvre de Genet.
Alors la maison, la première maison, il faut la quitter. Il le fait le 17 octobre 1924 en quittant son village et il va entrer en apprentissage dans une école, l'école d'Alembert. Et là, Edmund White dit que le jeune Genet était protégé, je le cite, par la solitude inviolable qui l'accompagnait partout.
Cette solitude n'est peut-être pas d'emblée donnée. C'est une solitude, je dirais, qu'il acquiert de plus en plus, puisqu'au fond, lorsque Genet est dans le village, il est bien sûr marqué par le fait d'être de l'assistance publique, donc il est à part, mais il n'est pas le seul. Il y a un tiers des élèves de sa classe étaient de l'assistance publique.
Le Morvan, c'est donc, l'endroit où on accompagne les enfants abandonnés.
Voilà. Alors après, ce qui se passe, c'est que au fond, il y a une chute dans la vie de Genet. C'est le moment où il quitte le village. Il est envoyé donc dans une. Il a de la chance d'être envoyé dans un centre d'apprentissage.
C'est parce que c'est le premier.
Il est le premier de la. Il a été au certificat d'études. Il a été premier de la commune. Donc il a de la chance au fond de ne pas devenir valet de ferme, qui était son destin. Là, on a la première bifurcation par rapport au destin qui était celui qui devait être le sien. Il est envoyé dans un centre d'apprentissage où il doit apprendre à être typographe. C'est assez amusant pour quelqu'un qui va devenir écrivain. Mais Genet reste quelques jours à peine et fugue tout de suite. Et là commence une longue série de fugues qui vont amener Genet en prison, en maison de correction d'abord, puis en prison.
Alors qu'est-ce qui se passe exactement le 8 mars 1926 qui fait qu'il est incarcéré à la prison de la Petite Roquette, qui est la grande pourvoyeuse de Maitret, la colonie pénitentiaire dont il va beaucoup parler dans son œuvre?
C'est de tout petits délits, mais comme il est sans domicile fixe, qu'il est un enfant qui fugue, qu'il est placé dans des patronages, dans des différents lieux et qu'il s'évade tout le temps, il en arrive à commettre des petits vols et il reçoit sa première condamnation par un tribunal. À cet âge-là, il est condamné à 3 mois en cellule individuelle. Alors, sur ce passage, il y a quand même une chose que je n'ai dit à un moment donné quand, plus tard, il est examiné par des psychiatres et on lui dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait cette première fugue de l'école d'Alembert, le centre d'apprentissage? Est-ce que vous étiez mal? Et je n'ai répondu, on ne s'en va pas toujours parce qu'on est mal, mais parce qu'on rêve d'autre chose. Et je pense qu'au fond, c'est peut-être ça aussi ce qui est arrivé à Genet et qui lui est arrivé par une chose simple qui est les livres. Mmh. Genet est un formidable lecteur de livres depuis la toute petite enfance. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il rêve trop fort.
Et rêver d'autre chose, c'est rêver d'être écrivain dans des conditions, donc envoyé dans cette, alors on peut pas dire une prison pour enfants, mais on va dire un centre de redressement peut-être. C'est dans ces conditions-là qu'il rêve de devenir écrivain et forcément le lieu où il se trouve impacte son imaginaire.
Oui, c'est à la colonie pénitentiaire de Maitret, donc où il est envoyé après la Petite Roquette, parce qu'il a pris à un moment donné un train sans billet, mais en réalité c'est parce qu'il a déjà un dossier qu'il suit. Donc Genet arrive à la colonie pénitentiaire de Maitret, c'est là qu'il dit que comment dire, le, je dirais pas l'idée d'être écrivain. Ce n'est pas ça. C'est le fait de pouvoir trouver un moyen qui accorde un rêve violent avec une réalité. Et ce moyen, c'est l'écriture. Il y a une chose d'ailleurs qui est très émouvante, que je n'ai dit à propos de la colonie pénitentiaire de Maitré, qui est en Touraine, donc, il dit que c'est là pour la première fois qu'il tombe sur un recueil de poèmes, et c'est un recueil de Ronsard.
Ouais.
Et je n'ai dit cette phrase qui est très étonnante, il dit, quand il a commencé à écrire, il dit, il fallait être entendu de Ronsard. C'est-à-dire que quand il prend la plume, il la prend pour être, non pas comme Ronsard ou pour imiter Ronsard, mais pour être entendu de Ronsard, comme si Ronsard était un auteur vivant. Et pour lui, c'est peut-être ça la grande force de l'œuvre de Genet, c'est que pour lui, tous les auteurs de tous les temps sont des contemporains.
Mais il lit d'ailleurs aussi ses contemporains, et puis il lit des romans populaires, et il sera toujours sensible finalement à ce mélange entre l'art le plus noble, la poésie de Ronsard, et puis, par exemple, le mélodrame qui est celui de son époque.
Genet utilise toutes les langues françaises. Celle de Ronsard, qui lui vient presque le plus naturellement. Je veux dire, les premières phrases des bonnes, les premières, il y a beaucoup d'inversions qui viennent vraiment de la langue de la Renaissance. Il a lu Maurice Sève, il a lu, Rabelais, bien sûr. Mais quand il écrit, il fait travailler toutes les langues françaises qu'il a à sa disposition, y compris la langue argotique des prisons ou de Paris.
Et il en fabrique une autre.
Il en fabrique une autre qui les mêle toutes et qui reste une chose assez étonnante, qui est à la fois, c'est pour ça que c'est tellement difficile de classer Genet, c'est pas un écrivain moderne, mais c'est en même temps quelqu'un qu'on ne peut pas non plus placer dans la tradition, donc inclassable parce que justement il déclasse les langues.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Jean Genet. Alors après Maitré, Genet se retrouve à l'armée. Il va d'abord aller en Syrie, Albert Dichy, à Damas. C'est peut-être là-bas qu'il va apprendre à devenir ce qu'il sera davantage 40 ans plus tard, c'est-à-dire l'ami des Palestiniens.
Oui, c'est très curieux. Bien sûr, il y a ce voyage au Liban-Syrie. Il arrive à Beyrouth, il est part tout de suite en Syrie, il sort de la colonie pénitentiaire de Maitré, et là, il découvre cette culture d'Orient, accueillante, chaleureuse, les garçons aussi, bien sûr.
Sur un mode qui est différent des garçons qu'il a pu connaître à Maitré, qui est un mode beaucoup plus doux, et il découvre une façon d'aimer qui n'est pas la même, qui est tout de même plus facile d'une certaine manière.
Il vient de ce qu'il décrit comme un monde féodal. Les enfants de Maitré, la prison, c'était un univers féodal, régi par la force, le rapport de vassal à dominer. Voilà. Et lui se classe d'ailleurs dans la... il fait toute une catégorie, comme Proust le ferait pour l'aristocratie, il fait toute une catégorie des enfants de Maitré, et il se classe parmi les cloches, qui sont la dernière catégorie. Donc là, il découvre une autre forme de société pour la première fois, et il tombe amoureux de ce... Il dit qu'il est tombé amoureux du monde arabe, là. Juste, je voudrais revenir en arrière parce qu'il y a une chose qui est très troublante dans la vie de Genet, c'est que lorsqu'il vient de quitter son village et qu'il est placé donc au centre d'Alembert, il y a un rapport qui est fait après sa fugue. Et dans le rapport, le directeur écrit ce qu'il a recueilli de la part des autres élèves, des autres enfants du centre. Et Genet part en disant qu'il va tourner dans les cinémas en Égypte et en Amérique. Mmh. Et on a Il a 13 ans, il n'a jamais quitté son visage, son village, il n'a jamais rien, il n'a même pas connu Paris encore, et déjà, il y a l'Égypte et l'Amérique, c'est-à-dire, au fond, le monde arabe auprès duquel il va, qu'il va accompagner dans la dernière partie de sa vie, et le monde et l'Amérique avec les Black Panthers, qui sera aussi l'autre groupe qu'il va accompagner.
Il a bouclé, donc, bouclé d'une certaine manière.
On a cette chose étonnante qu'à 13 ans, il a déjà ces deux rêves, et peut-être aussi, qui viennent aussi probablement du cinéma, parce qu'il y avait des films qui étaient projetés, et sûrement que le rapport avec l'Orient, en tout cas, est quelque chose qui provient de ce... de cette ligne.
Alors le rêve, c'est toujours un peu le rêve de la liberté chez Jeunet, et ça se traduit aussi quand il est à l'armée par sa désertion. Le 25 juin 1936, il est déclaré déserteur. Il va parcourir pendant un an quelques 8500 kilomètres à travers toute l'Europe. Ça paraît assez incroyable. Et puis, au fur et à mesure que la guerre se rapproche, on ne peut pas détailler toutes les étapes, mais il y a des moments de prison. Et puis, il y a cette idée qu'il y a trois vertus, le vol, la trahison et l'homosexualité, et c'est avec cet état d'esprit que la guerre arrive. Alors, on en parlera jeudi, je pense, avec Yvan Jablonka, mais il y a cette idée quand même que Jeunet n'a jamais caché qu'il avait été très content de la victoire des Allemands. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, selon vous, d'où vient cette appréciation ?
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est un point, comment dire, qui prête beaucoup à discussion, débat. Mais il faut bien voir une chose, c'est que Jeunet, au fond, ce n'est pas tellement la victoire de l'Allemagne qui l'enchante. C'est la défaite de l'armée française, dont il s'est senti exclu, puisque il en faisait partie, qu'il a été il a lui-même déserté, mais il s'est senti opprimé par l'armée française. Même s'il reconnaît que, au fond, cette période dans l'armée était une période qui lui a aussi apporté un peu de confiance en lui, il dit, mais au fond, c'est la France qu'il je dirais même pas qu'il est, qu'il vomit. Là encore, pour comprendre aussi mieux Jeunet, il faut vous aviez cité tout à l'heure cette rédaction qu'il faisait en classe. Lorsque Jeunet, lorsqu'il en parle, il dit tout de suite, quand les enfants se moquent de lui dans la classe, il dit: j'ai compris tout de suite que je ne faisais pas partie du village, que j'étais en dehors et que j'étais rejeté par la France. Donc il passe tout de suite de la situation du village à la situation de la France.